Sir, do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman?
Well, I can say no. I think it's maybe a little bit different. So I've known her a long time indirectly, not directly very much. And she was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
As many of you know, before I was elected vice president, I was an elected United States senator. Before that, I was an elected attorney general, and before that, an elected district attorney. And before that, I was a courtroom prosecutor. So I took on, in these roles, perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Scammers who broke the rules for personal gain. So Arizona. Hear me when I say, I know Donald Trump's type.
When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. We refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose, yeah. I'm a march on the regular, painted white, black, blue. Lord, forgive me, I've been running, running blind and true. Trying to rain on this bitter love, tell the deep I'm new. Ooh, I'm telling these tears gonna fall away, oh. May the last one burn into flame.
Après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, Donald Trump ne passe pas une journée sans attaquer frontalement sa nouvelle rivale Kamala Harris, usant de divers surnoms insultants pour la qualifier. Kamala Harris est-elle le cauchemar de Donald Trump? La candidature de Kamala Harris rebat-elle les cartes de l'élection? Qui sont ces séduits par Donald Trump? Kamala Harris pourrait-elle faire trébucher Donald Trump? Présidentielle américaine 2024, chaque dimanche, reportage, analyse avec les correspondants de France 24 et RFI sur CUT 89,5 FM, la radio au cœur des débats politiques, linguistiques et culturels.
Ciné Franco en partenariat avec Popurichaud.
et CUTFM vous invitent à participer en grand nombre à la 27e édition du Festival Grand Public du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton. Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, et son équipe nous promettent des chefs-d'œuvre du cinéma québécois, français et international. Du 1er au 10 novembre, tirage sort des billets gratuits pour les membres de la radio. Pour y participer, c'est très simple, écrivez-nous à popourri@cut.fm. Alors on se donne rendez-vous du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton, Métro Collège. D'ici là, je vous invite à découvrir les films à l'affiche sur cinéfranco.com ou popourrishow.com. Le KEPCA et CUTFM présentent « Le créole est notre langue, protégeons-le ». Depuis 2001, pour les 19 millions de personnes créolophones à travers le monde, octobre est le mois des célébrations publiques en l'honneur des langues et cultures créoles. Pour sa 23e édition, le KEPCA et ses partenaires, artistes, conteurs, auteurs, mettent en lumière le patrimoine créole à travers plusieurs activités favorisant la compréhension entre les peuples. Le créole est notre langue, protégeons-le. À travers une myriade d'activités, d'événements et de concerts captivants, le KEPCA et le mois créole à Montréal nous invitent à plonger dans un voyage inoubliable au cœur de la créolité. Découvrez la belle programmation du KEPCA en visitant moisducréole.ca. Et à tous les passionnés des cultures et langues créoles, Popourri Show et CUTFM vous donnent rendez-vous chaque dimanche de 11h à 13h. Parmi les thématiques, sommes-nous tous devenus créoles? Un décryptage à travers la parole d'historiens et de sociologues contemporains, d'anthropologues et d'artistes pour mettre en perspective les notions de créolité et de créolisation. Le créole est notre langue, protégeons-le avec le KEPCA sur moisducréole.ca. Sommes-nous tous devenus créoles? Sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec RFI France 24, TV5 Monde. Découvrez la belle programmation du mois du créole sur popourrishow.com. Le créole est notre langue, protégeons-le. Où que vous soyez dans le monde, toute l'équipe de la radio vous souhaite bon mois créole.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance,
Tierra de Alianza.
Este es Terre d'Alliance
sur France Inter con Alexandre Héro.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Héros, sur France Inter.
Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine phare de la francophonie qui célèbre sa 38e saison sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Vos commandants de bord, DJ Devera et Eric Tader, pour nous écouter où que vous soyez dans le monde, www.popourrishow.com. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques éducatives, sociales et langagières des francophonies en Ontario, au Canada et dans le monde, le CREFO, Université de Toronto. plongée au cœur des francophonies d'ici et d'ailleurs grâce à ses podcasts « Quoi de neuf à les cafés du Créfaux » et les conférences gratuites en ligne ou en personne. Pour rester à l'affût des activités du Créfaux, cliquez crefaux.ca ou popurichaud.com. Le Créfaux est situé au 252 rue Bloor-Ouest, métro Saint-Georges. Notre partenaire, Sophie Franc, organisme communautaire sans but lucratif, créé par des femmes immigrantes francophones vivant dans la région du Niagara et Welland, vous invite à participer à ces projets dédiés aux immigrants francophones tout au long de l'année. Sophie Franc, à retrouver sur sophiefranc.org. Et notre amie de toujours, Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, nous réserve de vrais petits bijoux lors de son festival annuel grand public, qui aura lieu du 1er au 17 novembre au cinéma Carlton, 20 rue Carlton, métro Collège. La thématique choisie de cette année, la singularité. Cette 27e édition nous offre plusieurs longs et courts-métrages français, québécois, des films acclamés à Cannes et dans d'autres festivals. Fiction, comédie, drame et des sujets d'actualité tels que le déracinement, les réfugiés, l'amour et des questions identitaires. Émotion, rire et de belles rencontres au rendez-vous. Et à surveiller des projections de films de cinéastes indépendants franco-canadiens du FRIC. FRIC, qui veut dire le Front des réalisateurs indépendants du Canada. Vous serez enchantés par la beauté de leurs œuvres. Entre-temps, chaque dimanche, je vous donne rendez-vous, madame, monsieur, à découvrir en exclusivité tout au long du mois d'octobre sur CIT 89,5 FM, des films à l'affiche du prochain festival de Ciné Franco. 10 paires de billets disponibles pour les membres de Popourri Show. Je dis bien, 10 paires de billets disponibles pour les membres de Popourri Show et CIT FM. Le Festival Torontois Ciné Franco, en partenariat avec CIT 89,5 FM et Popourri Show, revient du 1er au 10 novembre au Cinéma Carlton, à découvrir sur cinéfranco.com et popourrichaud.com. Et la maison d'édition Prise de Parole nous présente ses nouveautés littéraires, des nouveaux chefs-d'œuvre qui nous font voyager dans l'univers des écrivains francophones, queer et autochtones, à découvrir sur notre site ou sur prisedeparole.ca. Popourrichaud, liberté, égalité, actualité. Au menu ce dimanche, dans la première heure, nous ferons escale au cinéma Carlton, 20 rue Collège, qui accueillera la 27e édition de Ciné Franco. Un programme avec pour thématique l'insularité. Pendant 10 jours, Marceline et sa belle équipe vous y attendent nombreux pour cette fête du cinéma. Et j'ai le plaisir d'offrir quelques billets aux membres de la radio. Veuillez m'écrire immédiatement popourri@cut.fm. Je répète, popourri@cut.fm. Donc, quelques invités de marque dans cette première heure à ne pas manquer. Et dans le cadre du Mois du Créole et en partenariat avec le CEPTA et Moi du Créole à Montréal, nous vous proposons, mesdames, messieurs, une programmation spéciale qui met en avant la richesse de la mosaïque des langues et cultures créoles qui enrichissent la langue française et la francophonie. Et aujourd'hui, nous recevrons linguiste et historien pour une discussion passionnante sur le créole. Le créole est-il l'avenir du français? Voilà la grande question à retrouver dans la deuxième heure. Partenariat avec RFI France 24 et France Culture. Et nos partenaires du CEPCA à Montréal vous invitent à célébrer en grande pompe avec eux la 23e édition du festival Le Mois du Créole à Montréal. Tout Moundla Diaou, bonjour. Et tout au long du mois d'octobre, vous retrouverez sur leur site moisducréole.ca ou popourrichaud.com un florilège d'activités haut en couleur. Et ce dimanche 20 octobre, Festival Héritage Groupe Base 97, une journée intergénérationnelle qui rassemblera jeunes et seniors au cours des activités sportives, culturelles et éducatives pour favoriser la transmission du savoir, valeurs et culture, renforcement de liens et valorisation de la diversité culturelle. panel de discussion, kiosque culinaire et activités artistiques à ne pas manquer. Vous retrouverez tous les détails sur le site de moiducréole.com. Et dans le cadre du Mois du Créole et en partenariat avec le KEPCA et Mois du Créole à Montréal, nous vous proposons une programmation spéciale qui met en avant la richesse de la mosaïque des langues et cultures créoles qui enrichissent la langue française et la francophonie. Et aujourd'hui, nous recevrons linguiste et historien pour une discussion passionnante sur le thème « Le créole est-il l'avenir du français ?» À retrouver dans la deuxième heure. Nos partenaires du KEPCA Montréal nous invitent à célébrer avec eux la 23e édition du festival Le Mois du Créole à Montréal. Tout au long du mois d'octobre, vous retrouverez sur leur site web moisducréole.ca ou popourichaud.com un florilège d'activités haut en couleur. Et ce dimanche 20 octobre, festival Héritage Groupe Base 97. Une journée intergénérationnelle qui rassemblera jeunes et seniors au cours des activités sportives, culturelles et éducatives pour favoriser la transmission de savoirs, valeurs et cultures. Renforcement de liens et valorisation de la diversité culturelle. Panel de discussion, kiosque culinaire et activités artistiques au rendez-vous. Et toujours ce dimanche à 20 octobre, vente signature de Kiki ne veut pas de câlin. Un livre de sensibilisation des jeunes lecteurs sur les réactions qu'un enfant différent peut avoir. Il y aura aussi dégustation des bons petits plats créoles à ne pas manquer. Et le 25 octobre, conférence à la musique dans toute sa créolité. Échange sur la diversité et les perspectives de la musique créole. On parlera bien sûr du Sega, de la Maloya de l'île de la Réunion, Maurice Seychelles, compas d'Haïti, compas Zouk de Guadeloupe. Il y aura des conférenciers tels que Jean-Pierre Moutou, musicien mauricien, fondateur Académie de musique typique MRU pour l'île Maurice, Ali Acacia, acteur culturel haïtien. Et le 26 octobre, regard croisé sur le créole français, il y aura une table ronde de l'arbre du voyageur, c'en est le thème, service d'insertion et intégration des Antillais du Canada et de Francophonie sans frontières, en collaboration avec la Civica. Parmi les invités, Franks Voltaire, qui est président du syndicat, d'ailleurs on le revoit sur Facebook assez régulièrement, fait un travail extraordinaire pour aider justement les créoles et les haïtiens en particulier à s'intégrer dans la communauté montréalaise, québécoise. Il y aura aussi José Collat, coordonnatrice pour le Québec de Français sans frontières, Pierre Olambin, fondateur du Mois du Créole, que nous saluons, qui est le fondateur justement du Mois du Créole et qui passe régulièrement notre émission. Il y aura une table ronde ayant pour thème « Regards croisés, créole et français » est une occasion unique de plonger dans les dynamiques linguistiques et culturelles entre le créole et le français. On vous invite donc à être nombreux pour participer à cette discussion qui enrichissante où les panélistes partageront leurs perspectives et expériences. Donc un débat passionnant sur l'importance du créole dans l'identité culturelle et des échanges sur les défis et opportunités de la cohabitation linguistique. Très intéressant. Et le 26 octobre, Marie-Catherine conte sous le baobab. Sous l'arbre à palabre, Marie-Catherine, conteuse d'origine antillaise, nous ramène 500 ans d'histoire en arrière. Et oui, elle nous replonge dans l'univers de ces Africains dispersés, vendus tels que la marchandise bon marché. Ils vont devoir trouver la force de survivre et pour eux, qui parviendront, comment reconstruire leur identité et est-ce qu'ils vont justement y parvenir? Plus de 200 ans nous séparent et pourtant ces histoires d'une avante modernité semblent toujours nous coller à la peau. Et le 27 octobre, il y aura une table ronde ayant pour thème « Comprendre la notion de l'identité dans la littérature haïtienne ». Une façon pour les organisateurs de présenter des romanciers et poètes haïtiens qui exposent l'identité haïtienne. Il y aura plusieurs journalistes, des auteurs qui se feront au rendez-vous. Et le 28 octobre, journée internationale créole, célébrée depuis plus de 42 ans à travers le monde. Le KEPCA vous convie à une soirée spéciale dans le cadre de la clôture de la 23e édition du Mois du Créole et en même temps, on célébrera cette 42e journée internationale créole en musique, chant et poésie. Donc, au rendez-vous, il y aura le chœur Walter et Walter Band qui interpréteront des œuvres de Sidney Guillaume et des pièces folkloriques haïtiennes sous la direction de la talentueuse chanteuse Marjorie Walter. La poésie et le slam créole seront bien au rendez-vous avec Chacha Kwen et compte avec Marie-Catherine Célébrier et elle nous arrive directement de la France. Eh ouais, la musique de Coupé Cloué avec Tactique Polo et la chanson créole haïtienne avec Mélissa Gressot et son clavériste au rendez-vous. Donc retrouvez tous les détails de cette belle programmation et les informations additionnelles sur la page Facebook Moi du Créole Montréal ou encore Moi du Créole .ca ou popourichaud.com. Le créole est notre langue, protégeons-le. Je vous souhaite une très 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 bonne fête et bon mois du créole, où que vous soyez dans le monde.
Wesley, on a grandi dans un ghetto, mais c'est tout ce qu'il faut, mon vieux. Ah, yeah.
Pourquoi juge si souvent quand on sait qu'on évolue avec le temps? Pourquoi y a-t-il une limite au pardon tandis que Dieu nous a donné ce don? On se fait depuis l'antiquité, nos histoires portent les mots de l'humanité. Ça va la part. Les erreurs qu'on en a fait souvent, homme est civilisé depuis longtemps. Mais si ce n'est ni moi, ni toi, ni toi, on y arrive pas. Ça va la part. Dans le bar décollé, à prendre de l'altitude sans contrôler. Même si tu viens du ghetto, ce qu'il faut, c'est rêver grand afin de viser plus haut, pas t'affoler. Ma mauvaise habitude, pas faire un tollé. Focus sur les études sans trop consommer. Même si tu viens du ghetto, ce qu'il faut, un héros, un héros. Un héros, un héros. Ce qu'il faut. Un héros, un héros. Ce qu'il faut. Un héros, ce qu'il faut, un héros.
Si ce n'est ni moi, ni toi, je crois, on y arrive pas. Ça paraît pas, moi j'ai grandi dans un ghetto.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
C.
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme Jeunesse, exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés. Une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête tout au long de l'année en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popurucho, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma. Ciné Franco en partenariat avec Popurucho et CUTFM vous invite à participer en grand nombre à la 27e édition du Festival Grand Public du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton. Marcel Lynn, fondatrice de Ciné Franco, et son équipe nous promettent des chefs-d'œuvre du cinéma québécois, français et international. Du 1er au 10 novembre, tirage au sort des billets gratuits pour les membres de la radio. Pour y participer, c'est très simple, écrivez-nous à popourri@cut.fm. Alors, on se donne rendez-vous du 1er au 10 novembre au cinéma Carlton, Métro Collège. D'ici là, je vous invite à découvrir les films à l'affiche sur cinéfranco.com ou popourrichaud.com. Et j'ai le plaisir de vous présenter un de mes coups de cœur à l'affiche au Festival Ciné Franco Grand Public. Un coup de dé de Yvan Attal qui se lance dans un thriller pur. C'est un long métrage porté par Guillaume Canet et Mei Wen. C'est la première fois qu'Yvan Attal se frotte directement à ce genre dont il reprend des codes avec un hommage assumé au genre, empruntant notamment à Hitchcock ou Verhoeven. Yvan Attal situe son intrigue dans des intérieurs chics et en partie sur la Côte d'Azur. La musique est très présente dans un style à la Bernard Herrmann, l'un des compositeurs fétiches d'Hitchcock. Le film brasse de nombreux sujets déjà explorés par Yvan Attal, comme l'amitié ou la jalousie, mais ici traités sur le mode du drame pur. Au cœur du film, on trouve aussi le sujet d'une dette morale qui se trame entre les personnages. Au casting, d'un coup de dé, on retrouve Guillaume Canet, Marie-Josée Croze, Yvan Attal, Mei Wen, Alma Jodorowsky et Victor Belmondo. Un coup de dé est à découvrir au Festival Ciné Franco du 1er au 10 novembre au Cinéma Carlton. Tirage au sort de 10 paires de billets pour les membres de la radio. Alors faites vite, écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Je vous laisse maintenant avec Léa Salamé de France Inter qui reçoit le réalisateur et acteur Yvan Attal. Bon cinéma!
35 ans de carrière, je le disais, près de 60 films en tant qu'acteur, 8 films en tant que réalisateur, un César. Et pourtant, vous savez quel est le premier truc qui sort quand on tape Yvan Attal sur Google?
Non.
A-t-il un lien de parenté avec Gabriel Attal?
Ah oui, là, depuis, bien sûr. Ouais,
alors, pouvez-vous nous faire une mise au point? Gabriel Attal,
absolument rien
le Premier ministre,
il y a 35 ans de carrière et 34 ans d'existence.
Non, j'ai absolument rien à voir avec Gabriel Attal, sauf notre nom, voilà, qu'on partage. Il se trouve que j'ai rencontré son père qui a fait du cinéma.
Yves Attal,
qui était producteur. Mmh. Je l'ai rencontré il y a très 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 longtemps, parce qu'il est, je crois qu'il est, enfin il est plus
il
là.
Est décédé, ouais.
Il est décédé, mais j'ai absolument aucun lien de parenté avec lui.
Mmh. Et vous, Apolline?
Non, moi j'ai découvert.
C'est parce que vous m'en parlez, je ne savais pas.
Donc j'ai découvert que sous Napoléon, nous étions cousins. Effectivement. Nous avons un ancêtre commun en 1811.
Avec Gabi ?
Mais oui, avec Gabriel Attal.
Monsieur le Premier ministre.
Ça m'a échappé.
Donc, en effet, voilà. Alors, donc, il y a des généalogistes que ça a amusé de remonter le
fil. En fait, c'est
non, mais
des
vraiment,
gens qui...
Que moi, je suis... Comme... Voilà. Mais que...
Vous avez un petit air.
Oui. Je peux faire un Premier ministre.
Moi, j'ai un lien de parenté avec Marc Simoncini, du coup, pour l'héritage, si on peut mettre un truc sur...
Vous n'êtes pas là pour nous parler politique, ou en tout cas pas que, mais pour votre tout dernier film en tant que réalisateur, le 8e, ça s'appelle Un coup de dé, c'est en salle mercredi prochain. Un thriller palpitant, complexe, névrotique sur deux amis de toujours. Mathieu et Vincent donc, vous et Guillaume Canet, vous bossez ensemble, vous avez fait fortune ensemble, vos deux femmes jouées par Maïwenn Lebesco et Marie-Josée Croze, qui sont excellentes toutes les deux dans le film, sont meilleures copines, vos deux fils sont meilleurs potes, bref, deux couples de quinquas qui s'adorent, qui sont très unis.
Sauvé plus jeune en plus. Canet lui a sauvé la vie, en fait.
Oui, ça c'est ça. Fondateur même.
Ouais, ça joue.
Absolument.
Fondateur, l'un des deux, Guillaume Canet, vous a sauvé la vie. On n'explique pas pourquoi.
Je lui dois tout et je vais devoir
vous
le trahir.
Voilà. Il faut se méfier des apparences dans la vie. Quand on pense que tout va bien, bah, c'est pas tout à fait le cas.
Je redéroule le fil. Encore et encore. Comment ai-je pu en arriver là ?
Rio de Janeiro. Juste le nom, ça fait rêver.
Mais on vous a proposé de nous rejoindre.
C'est ça l'angoisse, l'avion.
Mais qu'est-ce qui l'angoisse pas, lui ? Qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis venu déjà avec toi.
Tu veux que je me sente coupable ?
Quitte cette fille.
Ça me gêne vis-à-vis de Delphine. Grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça ?
Delphine passe pour une conne et toi tu dis rien. Tu cautionnes en fait.
Vincent, c'est mon ami depuis toujours, il nous a sauvé la vie.
J'approche encore une fois de mon mari, je te crève les deux yeux ! J'y crois pas une seule seconde, Delphine est incapable de ça.
Regarde-moi, tu doutes de moi ?
Non.
C'est qui alors ?
C'est à cause de lui ? T'étais où ? Tu la connaissais ?
Je crois pas que tu me donnes une explication.
Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau.
À qui t'as parlé ?
Je ne sais plus qui a dit. L'improbable a toutes les chances de se produire.
Il est là ce matin, vous recevez un acteur et réalisateur.
Bonjour Yvan Attal.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin.
Mais merci de m'inviter.
Si vous étiez un écrivain, un pays et une émotion, vous seriez quoi ? Écrivain d'abord.
Écrivain, je sais pas, je rêverais d'être peut-être un écrivain américain, fort, terrien, genre, je sais pas, Harrison, je crois que je serais quand même un écrivain un peu plus frêle, un peu plus urbain, je sais pas. Mais peut-être, oui, un écrivain américain comme ça, très incarné.
Un pays.
Je vais essayer de sortir de l'Amérique
qui vous hante.
Enfin, c'est pas qui me hante, mais bon, j'ai grandi avec l'Amérique, le cinéma, la musique, le rock, etc. Les Nike, les machins, etc. Bon, ce serait difficile de mettre l'Amérique de côté. Mais disons que je serais mon pays, la France, quoi, voilà. Je suis bien ici, c'est bien ici, on le dit pas assez, voilà.
Une émotion.
Peut-être que j'ai un petit fond mélancolique ou... Ouais, j'ai pas tous les jours envie de me marrer, quoi. Contrairement à ce sourire qui vient de se dégager de moi.
Oui, mais enfin, on imagine. Bon. On imagine que vous avez des tourments. Non, et...
J'ai un petit fond mélancolique, on me le dit souvent, voilà. Ouais. Je lutte contre, mais je crois que j'ai un petit fond mélancolique. Ouais.
Albert Einstein disait que le hasard n'existait pas vraiment, que le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Êtes-vous d'accord avec lui ou vous y croyez au hasard?
Non, en fait c'est une bonne excuse le hasard, je crois, en fait, pour revenir au film,
à
ce coup de dé, mais en tout cas, je crois qu'on se donne toujours des, c'est toujours une excuse le hasard. On est quand même responsable de ses actes. On fait un tas de choses qui nous emmènent ici et là. Certes, il y a des coïncidences, mais quand même, on y est pour beaucoup. On provoque beaucoup de choses. Nous.
Le hasard, justement, et c'est pour ça que je vous posais la question. Il est au cœur de votre nouveau film qui sort la semaine prochaine. Votre nouveau film comme réalisateur, c'est votre 8e, un coup de dé, un thriller puissant et névrotique où deux amis de toujours sont déchirés par une histoire d'adultère. Mathieu et Vincent, vous et Guillaume Canet, vous bossez ensemble, vous avez fait fortune ensemble. Vos deux femmes, Maïwenn et Marie-Josée Croze, sont meilleures copines, vos fils aussi. Bref, deux couples de quinca, deux familles, très amies, sauf que l'un va tuer accidentellement la maîtresse de l'autre. Et là, tout bascule. Vous dites que vous avez voulu faire un film sur des thèmes qui vous touchent. La culpabilité, l'impunité, la lâcheté. C'est-à-dire tout ce qui peut mettre en péril une amitié de toujours.
Oui, ou de se remettre en question, ou de réaliser qui on est. Souvent, on se dit, est-ce que je suis à la hauteur de ce que j'imagine de moi? Voilà, au départ, j'étais parti sur un film... même d'époque, pour mettre quelqu'un dans une époque, dans un contexte particulier. Et puis aussi l'envie de faire un thriller, c'est mêlé à cette histoire. Donc j'ai oublié le film d'époque, et puis je suis revenu à une chose plus simple, un adultère, et puis un drame, et puis un type qui se révèle pas aussi courageux, honnête, etc.
Et puis les non-dits de l'amitié, les rivalités de l'amitié, de ces deux potes qui...
Absolument, il y en a toujours un qui a le dessus sur l'autre, qui secrètement envie l'autre, ou...
C'est ça qu'on voit dans ce film-là. Vous dites, j'avais envie de faire un thriller. C'est vrai qu'on sort de vos films qui sont en général des comédies sociales, sociétales, je sais pas comment on appelle ça. Vous expliquez, vous avez voulu faire pour la première fois un thriller, un film qui tient en haleine, et je le confirme, qui tient en haleine sur une heure et demie le spectateur. Vous vouliez trouver une forme aussi. Comment on tue quelqu'un au cinéma? Comment on filme un mort? Comment on filme un accident? C'est des choses que vous n'aviez pas encore faites.
Non, je n'avais jamais fait. Moi, j'aime tous les cinémas, tous les genres de cinéma. Quand c'est bien, c'est bien. Bon, je m'étais jamais frotté au thriller. Je me suis dit, comment on fait? Comment on filme un accident? Comment on filme une mort? J'ai jamais fait. Bon, j'avais filmé un adultère ou je sais pas quoi, ou des comédies. Bon, c'est un peu toujours la même chose quand même. Hein. Mais sauf avec les choses humaines. Les choses humaines. En fait, quand j'ai attaqué.
C'était adapté du livre de Karine Tulle.
Quand j'ai attaqué l'écriture d'un coup de dé, j'avais pas encore lu Karine Tulle. Je sortais de Mon chien stupide et j'avais vraiment envie de faire un film noir. Pendant l'écriture, ou presque à la toute fin de l'écriture du scénario, je suis tombé sur le roman de Karine Tuile et je me suis dit, merde, à cause du sujet, faut faire ça maintenant.
Et maintenant, vous faites un coup de dé.
Et du coup, je suis revenu au coup de dé, parce que j'avais pas envie de laisser ce scénario. Mais j'avais déjà fait ce film noir, d'une certaine façon, parce que voilà, c'était déjà une rupture avec la comédie, les choses humaines.
Yvan Attal, on pense évidemment, en regardant votre film, à Woody Allen et à Match Point. Ce film, avec cette scène inoubliable, quiconque a vu ce film peut pas oublier cette scène. Ton destin est déterminé par une balle de tennis qui frôle le filet. Selon qu'elle retombe à gauche ou à droite, ta vie va totalement changer. On écoute un extrait de Match Point.
Celui qui a dit « je préfère la chance au talent » avait un regard pénétrant sur la vie. Les gens n'osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas et on perd.
Vous y croyez, ça, la théorie de la balle de tennis?
Bah oui, il y a quand même des moments... avec et des moments sans, je sais pas, mais en même temps, je crois pas complètement au hasard. Hein.
Oui, c'est ce que vous nous disiez au début.
Ouais, je crois pas totalement au hasard.
Mais c'est vrai en tout cas, dans votre film,
Il y a plein de hasards, mais qui ont une explication.
Exactement, exactement. Et cette balle de tennis aussi. Enfin, moi, je suis un fan de tennis. Un coup lifté, il touche le filet, il passe quand même. Bon, non, mais en même temps, c'est dingue d'écouter ça et de me rappeler de ce film. C'est l'inspecteur qui parle et puis on voit les images, je crois, de cette balle. Je réalise à quel point Woody Allen
vous marque.
Évidemment.
Guillaume Canet, Mai Wen, Marie-Josée Cros, vous vous êtes offert un casting XXL pour ce film. Un mot pour caractériser chacun des trois, Guillaume Canet.
Les acteurs, pas les personnages.
Oui, les acteurs.
Canet, je pense qu'il est très rieur. C'est un rieur, Canet.
Ah oui, ouais, je ne dirais pas, dis donc.
Ben voilà, c'est pour ça que je vous le dis. C'est un rieur. Il a des petits yeux qui rient tout le temps. Il a envie de se marrer tout le temps. Voilà.
Mai Wen.
Mai Wen, qu'est-ce que je peux dire sur Mai Wen? Je crois qu'elle est, je la trouve très, très, très élégante. Je trouve qu'elle est, elle a un mélange de beaucoup de choses. C'est difficile de la caractériser comme ça avec un adjectif où elle est multiple, elle a du chien, elle est élégante, elle est à la fois très douce et très en colère. C'est très compliqué de la cerner en un adjectif comme ça.
Et c'est facile de la faire tourner, Mai Wen?
Oui, oui. Non, non. Déjà le fait de me poser la question.
Non, mais parce qu'elle a son caractère.
Non, mais voilà, elle a son caractère.
Avec tout, ce que ça a de bien et qu'elle est aussi
facile.
Réalisatrice.
Absolument.
Et qu'elle disait elle-même, quand je joue en actrice, j'ai toujours un petit œil qui regarde le réalisateur.
Oui,
donc est-ce que vous étiez sous surveillance de Guillaume Canet et de Mai Wen?
Non, parce que moi-même qui suis acteur et metteur en scène, je les comprends complètement et je pense que c'est même plus facile de travailler avec des acteurs metteurs en scène.
Et Marie-Josée Cros, qui est,
elle est
excellente.
Elle est à vif, Marie-Josée Cros. C'est une femme à vif, elle a une émotion présente toute la journée. Quoi.
Elle a un regard.
Elle a un regard.
Le décor du film, c'est la Côte d'Azur. Beaucoup de grands classiques du cinéma ont été tournés sur la Côte d'Azur. Pierrot le Fou, Baie des Anges, le James Bond, Jamais plus jamais, La main au collet d'Alfred Hitchcock. C'est avec son ciel bleu, sa lumière, ses paysages, ses rues escarpées et le huis clos de ses villas, ça ajoute à l'intensité dramatique la Côte d'Azur.
Oui, mais j'avais aussi envie de faire un film... Un film noir mais ensoleillé, quoi. Voilà. Et puis ça me renvoyait au polar californien, à tous ces films-là. Donc je voyais mal cette histoire dans une ville grise ou enfin dans une ville comme ça. J'avais envie de.
Quel est le soleil?
Ouais. J'avais envie d'un truc ensoleillé aussi parce que ça donne une forme, des flares, une image comme ça très éclairée.
C'est mon 8e film, dites-vous. Plus j'avance et plus j'ai plaisir à faire ce que je fais.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, je me rends compte que j'étais quand même très très glandeur. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de travailler. Quand je suis sur un plateau de cinéma, je me sens bien. J'ai envie d'être avec des acteurs, avec une caméra, me poser ces questions, comment on filme, comment on fait.
Donc vous avez encore envie. Je le disais, 60 films, 8 films comme réalisateur.
Ah, vous m'avez fait peur, 60 films. J'ai fait 60 films
comme acteur. Oui, je suis désolé de vous l'apprendre, okay. Mais c'est ainsi. Vous avez encore l'envie. Vous avez encore.
Mais j'ai de plus en plus envie. Je réalise qu'il me reste peu de films à faire.
Vous n'êtes pas lassé.
Non, 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 au contraire, je trouve ça... Aussi parce que j'ai dû me libérer de quelque chose.
De quoi?
Avant, j'avais le trac, j'étais nerveux, il fallait prouver qu'on a peut-être un peu de talent ou quoi. Maintenant, ça va, j'ai 59 ans, j'ai fait assez de films pour me dire, bon, si vraiment... Parce qu'on a toujours l'impression d'être un peu un escroc, de faire des films qu'on n'aime pas complètement. À chaque fois que je vois un de mes films, enfin, ceci dit, je suis retombé sur Mon chien stupide il n'y a pas si longtemps à la télé. J'ai adoré. Il me faut 3 ans pour admettre
pour
que
aimer
j'ai fait
votre
un bon film.
Voilà. C'est drôle, ça. Vous avez une autre phrase assez drôle dans psychologie. Je pense toujours que je suis un très grand acteur, mais quand je regarde ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ce métier, j'en déduis que je ne dois pas être si grand.
C'est terrible. C'est affreux. Il ne faut pas se regarder. Il faut pas se regarder.
Vous dites aussi, vous avez débuté il y a pas mal de temps, hein, 35 ans, après avoir été repéré à votre sortie du cours Florent à la fin des années 80 pour jouer dans Un monde sans pitié d'Éric Rochant. Vous avez eu le César d'ailleurs, tout a été allé très vite pour vous avec Les Patriotes. Vous aviez dit à Augustin Trapenard que ce succès rapide avait un peu été un cadeau empoisonné.
Ben oui, parce que quand on a envie de... On est très naïf de vouloir faire ce métier. On pense qu'on a du talent, on pense qu'on vaut le coup. Je pensais que j'étais Robert De Niro, le nouveau Robert De Niro, évidemment. Mmh. Si j'avais eu conscience de ce que j'étais vraiment, je me serais jamais lancé. Bon. Et donc, on fait ce premier film, et le premier film marche. Le premier film marche, donc le premier film vous donne raison. Ça marche, il y a du succès, on vous donne un César.
Et tu pètes les plombs?
je suis pas sûr de péter les plombs, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. J'avais décidé de faire du cinéma. Ben, le cinéma, c'est ça, ça marche, on a du succès, etc. Et puis le deuxième film arrive, c'est pas du tout pareil. Le troisième non plus, le quatrième, je sais pas quand va revenir le succès aussi gros que le premier film. Hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que ce premier film était un cadeau empoisonné parce que là, c'est un peu difficile après, quoi.
Vous avez grandi dans une cité à Créteil, fils unique de parents aimants. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette enfance en banlieue?
Ah, ça c'est une question. Qu'est-ce qui me reste? Parce que souvent je me dis, j'entends ce genre de choses. Qu'est-ce qui me reste de mon enfance, etc. En fait, moi j'avais envie de grandir. J'avais envie de grandir et j'avais envie de me sauver de cette banlieue. Je me souviens, c'était un sentiment vraiment très fort. D'ailleurs. Je me sauvais déjà pour aller au cinéma. Je venais à Paris pour aller voir des films. Il n'y avait pas encore un grand complexe avec. Après, c'est venu plus tard avec ce cinéma Artel, avec une dizaine de salles où on pouvait voir plusieurs films. Mais je pense que j'avais envie.
Vous vouliez fuir.
Ouais, je voulais fuir.
Et puis je savais pas. Moi, je le savais pas, mais vous êtes né à Tel Aviv. Mm-hmm. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 6 mois, mais vous êtes né à Tel Aviv.
Absolument.
Vous dites ma langue, c'est le français. J'ai quelques notions d'hébreu, mais je ne le parle pas. Je ne connais pas les textes et je n'appartiens à aucune organisation communautaire. Je pense juste que je deviens de plus en plus juif à mesure que l'antisémitisme grandit. Vous êtes donc très très juif en ce moment.
Exactement. Ben là, on assiste quand même à une orgie d'antisémitisme. Tout le monde se gave. On y va plein pot, quoi. Donc là, forcément, je suis totalement juif, évidemment. Sans antisémitisme, oui, je serais moins juif. Je serais tous les jours pas forcément concerné par un judaïsme quel qu'il soit. Mais on me renvoie à ça toute la journée, évidemment.
Vous sentez l'orgie d'antisémitisme? Vous la ressentez, vous?
Ah oui, absolument. Mais c'est toute la journée, tous les jours. Alors moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, heureusement. Mais j'écoute la radio, j'entends, je vois, je suis au milieu de gens. Tout le monde parle de ce conflit sans en comprendre grand-chose. Et tout le monde se jette là-dessus. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé... J'ai fait un film sur l'antisémitisme il y a une petite dizaine d'années, qui était probablement raté. Celui-là, j'ai pas besoin de le revoir pour penser que je l'avais raté, mais quand même, il parlait de quelque chose, et c'était il y a à peu près une dizaine d'années. On dit qu'on importe ce conflit israélo-palestinien ici, mais moi j'ai l'impression que c'est le même conflit. C'est l'antisémitisme. Voilà.
Il y a une femme, Yvan Attal, qu'on adorait et dont la voix manque peut-être sur le Proche-Orient ou sur l'Ukraine. Pour nous, elle était l'ex-fan des 60s. Pour elle, elle était votre belle-mère.
C'est un opportuniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un opportuniste, un modeste guitariste.
Je me suis fait plaisir, c'est l'aquaboniste parce que elle est pas très connue, mais vous moi je l'aime particulièrement. Vous dites c'était ma belle-mère, mais c'était presque une sœur, Jane Birkin.
Oui, quand j'ai dit ça, c'est parce que en fait. Elle était très très proche de ma mère. Moi, je suis fils unique. Et donc, comme elle allait la voir énormément, très souvent, elle passait du temps avec elle, elle me reprochait, moi, de pas y aller assez. Comme une sœur qui dit, oh, il faut qu'on se partage le boulot, quoi. Mmh. Voilà. Et elle manque beaucoup depuis qu'elle est plus là.
Charlotte nous avait dit à ce micro en septembre l'effet que lui avait fait la mort de sa mère. La mort d'une mère, c'est dans notre corps. Il y a quelque chose de la colonne vertébrale qui s'effondre. Je n'ai plus de repères. Mmh. Elle les a retrouvés?
C'est long, mais oui, elle est sur le chemin. Oui, absolument.
Un mot sur l'affaire Depardieu qui ne cesse de déchirer le cinéma français. Je vous pose la question parce que vous avez fait partie des 60 signataires qui ont signé cette fameuse tribune le jour de Noël pour défendre Depardieu. Beaucoup comme Pierre Richard, Carole Bouquet, Jacques Weber, Nadine Trintignant ont retiré leur signature. Pas vous.
Non, mais je me suis expliqué dessus. J'ai pas retiré ma signature parce que j'ai signé. Donc, et quand j'ai signé avec énormément de difficultés. D'ailleurs, l'auteur de cette pétition l'a dit dans une interview. J'ai été le seul à la contester. En fait, j'ai lui ai demandé de réécrire sans arrêt. Il n'a pas voulu la réécrire. Et j'ai eu quand même envie de signer parce que j'avais envie de prendre quand même la parole sur cette histoire de présomption d'innocence, etc. Donc évidemment, je suis pas. D'abord, je suis pas défenseur de Gérard Depardieu. Je suis pas son avocat. J'avais envie de défendre certains principes. C'est tout. Évidemment que cette pétition est vraiment mal. Branlé, pardonnez-moi l'expression, mais je me suis déjà expliqué là-dessus. Après, bon, voilà. On va pas. Ce qui me rend dingue, c'est de voir aussi un. Parce que je sais que je disais que j'étais pas sur les réseaux sociaux, mais on m'a fait part de tout ce que j'ai pris après sur les réseaux sociaux, de certaines organisations féministes, etc. Je regrette que ces organisations féministes s'acharnent comme ça sur un Depardieu, et puis qu'il y a d'autres viols ou d'autres endroits du monde où on viole des femmes et ça laisse tout le monde indifférent. Je veux dire, de ne plus parler de ces femmes violées en Israël. Moi, ça a été le depuis le 7 octobre, ça a été la chose qui m'a le plus, c'est la chose qui me rend le plus dingue. Voilà. Donc on peut être féministe. Moi, je défends toutes les femmes. Je défends pas certaines femmes.
Yvan Attal, les impromptus pour terminer. Vous répondez très rapidement sans réfléchir. Réalisateur ou acteur?
Réalisateur.
Toujours hypochondriaque?
Un peu moins.
Scorsese ou Coppola?
Coppola.
Al Pacino ou De Niro?
De Niro.
Ah ouais.
Bah alors Pacino.
Non. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo.
Pareil, Delon, Belmondo, c'est très difficile.
Instagram ou Twitter?
Bah ni l'un ni l'autre.
Nadal ou Federer?
Nadal.
Paris ou New York?
Paris.
Anatomie d'une chute ou Oppenheimer?
Anatomie d'une chute.
La psychanalyse, vous avez déjà fait?
Oui.
Et?
Et j'ai arrêté. J'ai toujours pas repris. J'y vais quand j'en ai besoin. En fait, je sais pas rester.
Vous n'êtes pas fidèle.
Non, je suis pas fidèle. J'y vais vraiment. Non, en psychanalyse avec le psy. Voilà, attention.
Parce que là, je voyais
non,
déjà
je suis très
gala.fr. Guette.
Merci bien.
L'amour dure 30 ans chez vous. Comment vous avez fait?
Ah bah ça, si je savais, je recommencerais. Non, c'est une
joli,
blague.
Joli ça. Voilà. Ah bah non, c'est joli. Vous mentez beaucoup.
Et je mens tout le temps.
Là, vous avez beaucoup menti.
Pas du tout.
Cannabis ou champagne?
Vin rouge.
Rachida Dati à la culture?
Pourquoi pas, on va attendre.
La dernière fois que vous avez pleuré?
Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu des larmes aux yeux qu'il y a quelques jours.
Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
Fraternité.
Et Dieu dans tout ça?
J'y crois pas beaucoup.
Ça s'appelle Un coup de dé. C'est le 8e film thriller haletant. Pour la première fois, un thriller pour Yvan Attal. Merci infiniment.
Merci
et belle journée.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adrabe la cosa, dingue d'un.
Non,
dingue
d'un.
Écoutez la planète chanter.
Oh, yeah. Elle a pas bien, mais qu'elle sort.
J'entends des bails accrochés sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Comment t'es-tu père? Tu croyais quoi? T'en serais plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, ja, ja. Y'a pas moyen, ja, ja. J'suis pas ta. Ja, ja, genre. En... Baby, tu t'es là. Salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Si tu me déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait.
En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, tu sais trop mal comme oh non. Tu vas me ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais quand c'est piment. Tu vas plus les autres quand je suis dans les pages. Par mes formes, mais toi t'es en bouteille. Tu t'en fous des autres, tu me dis fais-moi câlin. Par mes formes, mais toi t'es en bouteille. Taille mannequin, mannequin sans force. T'as kiffé la dégueu. Mannequin, mannequin sans force. C'est malade again, t'es malade again. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade again, t'es malade again. Mannequin, mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, t'es malade again.
in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard.
You talk about extreme.
Harris Ball 2024, let's go!
Tonight, we're calling on people from across our great country who are fired up for Vice President Kamala Harris. After an electrifying Democratic National Convention, Kamala Harris raised record-breaking campaign donations, became a viral sensation, and then the world watched her step into her power and dominate that debate.
You're not running against Joe Biden, you're running against me.
In an unprecedented surge, grassroots coalitions have organized in lightning speed, creating a tidal wave of support.
Black women, were you in the meeting last night?
It all started the night Kamala Harris announced her candidacy. Advocacy group Win with Black Women, a collective of thousands of black women leaders from around the country, founded by Joteka Edie, hosted a Zoom call to support the campaign. Within hours, they raised $1.6 million and had so many people on the line, they almost broke Zoom, y'all.
I was on Zoom with 44,000 other black women who were all focused on getting this woman to the White House.
Win with Black Women was the original spark that inspired over 100 other groups to organize their own Zooms for Kamala, like Win with Black Men, White Women Answer the Call, White Dudes for Harris, Jewish Women for Kamala.
Be the badass Jewesses that I know you all are.
Comics for Kamala.
She is President America Needs.
Swifties for Kamala.
First of all, I am a Swiftie.
Even Cat Ladies for Kamala.
Come on, Cat Ladies!
Tonight, for the first time, we are uniting all the groups together in one place with a single purpose. Elect Kamala Harris, President of the United States.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfou. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfou, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf? Les cafés du Créfou. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfou s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfou. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/Créfou ou tout simplement popourichaud.com. Quoi de neuf à les cafés du Créfou, une ouverture sur le monde. En voici un extrait du dernier épisode.
Dans cet épisode, Amal Madibo, membre du Créfou, rencontre Scott Tilton, cofondateur et co-directeur de la Fondation New en Nouvelle-Orléans.
Souvent, aux États-Unis, on parle de la fin de la des cultures francophones en Louisiane comme si ça a fini en 1803 avec la vente de la Louisiane. Mais en réalité, ces cultures francophones et créolophones se sont développées. C'était vraiment les langues parlées dans la rue, dans le commerce, dans la politique, tout au long du 19e siècle, dès le 20e siècle.
Bienvenue à Quoi de neuf?
Bonjour tout le monde, partout dans le monde. Ici Amal Madibo, à OISI, l'Université de Toronto. Et bienvenue donc au podcast de CREFO. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Scott Tilton, qui est le cofondateur et co-directeur de la Fondation NOU, qui se trouve donc à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. La Fondation NOU est une plateforme d'échange entre la Louisiane et le monde francophone. Monsieur Tilton est diplômé de l'Université de Virginie, donc aux États-Unis, en sciences politiques. Et il est également titulaire d'une maîtrise en relations internationales de Sciences Po Paris. Il a vécu quelques années à Paris et puis il est de retour, il était de retour en Louisiane. Monsieur Scott Tilton, merci beaucoup de nous joindre au podcast de CREFO. On aimerait vous souhaiter la bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup et merci pour cette invitation.
Oui, ça fait vraiment un plaisir. Donc, je viens de vous présenter brièvement. Est-ce que vous aimeriez ajouter donc des aspects que je ne veux pas mentionner donc au sujet de votre trajectoire de vie?
Oui, donc je suis issu de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. J'ai grandi ici après l'ouragan Katrina qui a frappé la ville en 2005. Ma famille a déménagé dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment le cœur battant de cette ville, toute la belle culture de cette ville avec le jazz et vraiment et aussi entouré un peu par le chaos de Bourbon Street. Mais j'ai grandi dans cette ville. Je pense que un moment vraiment charnier dans ma vie, c'était l'ouragan Katrina en 2005. C'est après ce moment, cet ouragan qui a vraiment dévasté cette ville. Mais après ce moment en 2005, j'ai eu l'opportunité via mon père, qui sa famille en partie francophone, via mes voisins qui parlaient aussi le créole louisianais, de vraiment grandir dans un monde où il y avait plusieurs langues autour de moi. Et c'est plus tard quand je suis allé à l'université Virginie que je me suis rendu compte à quel point c'était exceptionnel d'être au sein des États-Unis, entouré par ces communautés francophones. Et même s'il n'y a pas en Louisiane tout le monde qui parle français, bien sûr, parce que c'est vraiment après 100 ans de déclin, malheureusement, en Louisiane, on garde cet attachement à la langue française et à la langue créole qui reste encore. Et je suis vraiment, j'ai vraiment la chance d'avoir eu cette connexion assez tôt dans ma vie. Effectivement, après l'université de Virginie, je suis allé à Sciences Po. J'ai vécu quelques années à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Donc, c'est toute ma vie qui est bâtie sur la langue, sur cette modèle, sur la fondation. Et voilà.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
La langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre délivre, livre délivre de pensée. Je cohabite avec les dialectes et langue. Ma structure grammaticale est à repart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022.
Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPTA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPTA et le mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Bonjour tout le monde, moi c'est Michel Siloska, entrepreneur, animatrice, porte-voix 23e édition, moi créole, KEPTA organisé sous thème Créole, c'est langue nous, pas quitter l'allée. Moi, je viens inviter nous dans le lancement Gros Rumble ça, qui va le dérouler mardi 1er octobre dans le centre fille. Reine chanteuse soirée ça, c'est la Gaïa Michel, une chanteuse qui t'a charmé jury émission La Voix dans TVA. La bien 9 grands musiciens avec lui. Yo pral interpréter pour nous succès musical qui sorti dans groupe Tankou, Les Difficiles de Pétionville, Mono Charlemagne, Toto Bicente, Kassav, Bookman Experience, Mika Ben. Chanteuse Rebecca Jean à Kleblio à Platou. $50 avant 1er octobre, 60 dans pot. Rendez-vous mardi 1er octobre, 6h30 dans Centre-Fi, 315 rue Saint-Paul. À réserver ticket nous dans pointdevente.com, info 514-750-8800. Pour avant passer, pour tout goudou craser, même les jambes de l'eau, quel que soit côté lié, créole, c'est long.
Et dans le cadre du Mois du Créole et en partenariat avec le KEPTA et Mois du Créole à Montréal, nous vous proposons une programmation spéciale qui met en avant la richesse de la mosaïque des langues et cultures créoles qui enrichissent la langue française et la francophonie. Et aujourd'hui, nous recevrons linguistes et historiens pour une discussion passionnante sur le thème « Le créole est-il l'avenir du français ?» à retrouver dans la deuxième heure. Nos partenaires du KEPTA Montréal nous invitent à célébrer avec eux la 23e édition du festival Le Mois du Créole à Montréal. Tout au long du mois d'octobre, vous retrouverez sur leur site web moisducreole.ca ou popourichaud.com un florilège d'activités haut en couleur. Et ce dimanche 20 octobre, festival Héritage Groupe Base 97, une journée intergénérationnelle qui rassemblera jeunes et seniors au cours des activités sportives, culturelles et éducatives pour favoriser la transmission de savoir, valeurs et culture, renforcement de liens et valorisation de la diversité culturelle. Panel de discussion, kiosques culinaires et activités artistiques au rendez-vous. Et toujours ce dimanche à 20 octobre, vente signature de Kiki ne veut pas de câlin. Un livre de sensibilisation des jeunes lecteurs sur les réactions qu'un enfant différent peut avoir. Il y aura aussi dégustation des bons petits plats créoles à ne pas manquer. Et le 25 octobre, conférence à la musique dans toute sa créolité. Échange sur la diversité et les perspectives de la musique créole. On parlera bien sûr du Sega, de la Maloya, de l'île de la Réunion, Maurice Seychelles, compas d'Haïti, compas Zouk de Guadeloupe. Il y aura des conférenciers tels que Jean-Pierre Moutou, musicien mauricien, fondateur Académie de musique typique MRU pour l'île Maurice, Ali Acacia, acteur culturel haïtien. Et le 26 octobre, regard croisé sur le créole français, il y aura une table ronde de l'arbre du voyageur, c'en est le thème, service d'insertion et intégration des Antillais du Canada et de Francophonie sans frontières, en collaboration avec la Civica. Parmi les invités, Franks Voltaire, qui est président du syndicat, d'ailleurs on le revoit sur Facebook assez régulièrement, fait un travail extraordinaire pour aider justement les créoles et les haïtiens en particulier à s'intégrer dans la communauté montréalaise, québécoise. Il y aura aussi José Cola, coordonnatrice pour le Québec de Français sans frontières, Pierre-Roland Bain, fondateur du Mois du Créole, que nous saluons, qui est le fondateur justement du Mois du Créole et qui passe régulièrement à notre émission. Il y aura une table ronde ayant pour thème « Regards croisés, créole et français » est une occasion unique de plonger dans les dynamiques linguistiques et culturelles entre le créole et le français. On vous invite donc à être nombreux pour participer à cette discussion qui enrichissante où les panélistes partageront leurs perspectives et expériences. Donc un débat passionnant sur l'importance du créole dans l'identité culturelle et des échanges sur les défis et opportunités de la cohabitation linguistique. Très intéressant. Et le 26 octobre, Marie-Catherine compte sous le baobab. Sous l'arbre à palabre, Marie-Catherine, conteuse d'origine antillaise, nous ramène 500 ans d'histoire en arrière. Et oui, elle nous replonge dans l'univers de ces Africains dispersés, vendus tels que la marchandise bon marché. Ils vont devoir trouver la force de survivre et pour eux, qui parviendront, comment reconstruire leur identité et est-ce qu'ils vont justement y parvenir. Plus de 200 ans nous séparent et pourtant ces histoires d'une navrante modernité semblent toujours nous coller à la peau. Et le 27 octobre, il y aura une table ronde ayant pour thème « Comprendre la notion de l'identité dans la littérature haïtienne ». Une façon pour les organisateurs de présenter des romanciers et poètes haïtiens qui exposent l'identité haïtienne. Il y aura plusieurs journalistes, des auteurs qui seront au rendez-vous. Le 28 octobre, Journée internationale créole, célébrée depuis plus de 42 ans à travers le monde. Le CAPCA vous convie à une soirée spéciale dans le cadre de la clôture de la 23e édition du Mois du Créole. Et en même temps, on célébrera cette 42e Journée internationale créole en musique, chant et poésie. Donc, au rendez-vous, il y aura le chœur Walter et Walter Band, qui interpréteront des œuvres de Sidney Guillaume et des pièces folkloriques haïtiennes sous la direction de la talentueuse chanteuse Marjorie Walter. La poésie et le slam créole seront bien au rendez-vous avec Chacha Kwen et compte avec Marie-Catherine Célébrier et elle nous arrive directement de la France. Et ouais, la musique de Coupé Cloué avec Tactique Polo et la chanson créole haïtienne avec Mélissa Gressot et son clavériste au rendez-vous. Donc retrouvez tous les détails de cette belle programmation et les informations additionnelles sur la page Facebook Mois du Créole Montréal ou encore moisducréole.ca ou popourichaud.com. Le créole est notre langue, protégeons-le. Je vous souhaite une très 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 bonne fête et bon Mois du Créole où que vous soyez dans le monde. Le CAPCA et CUTFM présentent Le créole est notre langue, protégeons-le. Depuis 2001, pour les 19 millions de personnes créolophones à travers le monde, octobre est le mois des célébrations publiques en l'honneur des langues et cultures créoles. Pour sa 23e édition, le CAPCA et ses partenaires, artistes, conteurs, auteurs, mettent en lumière le patrimoine créole à travers plusieurs activités favorisant la compréhension entre les peuples. Le créole est notre langue, protégeons-le. À travers une myriade d'activités, d'événements et de concerts captivants, le CAPCA et le Mois créole à Montréal nous invitent à plonger dans un voyage inoubliable au cœur de la créolité. Découvrez la belle programmation du CAPCA en visitant moisducréole.ca. Et à tous les passionnés des cultures et langues créoles, Popourichaud et CUTFM vous donnent rendez-vous chaque dimanche de 11h à 13h. Parmi les thématiques, sommes-nous tous devenus créoles ? Un décryptage à travers la parole d'historiens et de sociologues contemporains, d'anthropologues et d'artistes pour mettre en perspective les notions de créolité et de créolisation. Le créole est notre langue, protégeons-le avec le CAPCA sur moisducréole.ca. Sommes-nous tous devenus créoles ? Sur CUT 89,5 FM en partenariat avec RFI France 24, TV5 Monde. Découvrez la belle programmation du Mois du Créole sur popourichaud.com. Le créole est notre langue, protégeons-le. Où que vous soyez dans le monde, toute l'équipe de la radio vous souhaite bon Mois Créole.
Sommes-nous tous devenus créoles ? Épisode 3. Qui est vraiment créole dans le monde actuel ?
Valérie Beg.
Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de notre série. Nous continuons à faire le tour de la créolisation et autant dire que c'est un voyage géographique, humain, mais aussi poétique, philosophique et politique. Qui est vraiment créole dans le monde actuel ? Voilà ce qu'on se demande dans ce troisième épisode. Non pas pour ériger des frontières, non, mais pour constater que ce qui fait le créole, à savoir le métissage, l'invention, la circulation, l'échange, pourrait être très utile dans notre monde de plus en plus en mouvement.
L'histoire fait que les peuples se voient constamment recomposés. Si on prend la France, puisque je parle principalement des Français, après avoir reçu 1 million de Portugais, 1 million de travailleurs italiens, 800 000 travailleurs polonais, 2 millions de Maghrébins et d'Africains. Est-ce que la France a disparu? Elle s'est transformée. Donc c'est pareil pour la Martinique. La Martinique a différentes étapes de son histoire et composée de populations particulières.
On va donc vous parler du créole au sens large, en quelque sorte, avec des voix d'intervenants essentiels sur le sujet qui vivent en pays créole. Alice Milo, avec l'aide de Jeanne Robet.
Et c'est avec un des pères de la créolité que je vous propose d'ouvrir cet épisode. Raphaël Confion, écrivain martiniquais, est l'auteur du livre « Éloge de la créolité » qu'il a coécrit avec ses confrères Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau. Un livre fondateur, publié en 1989, qui apparaît dans la continuité du mouvement de la négritude, défendu entre autres par le martiniquais Aimé Césaire. Pour ces trois penseurs, celles et ceux qui vivent dans l'espace caraïbe doivent à présent dépasser la négritude pour embrasser une identité nouvelle qui tient compte de leur diversité si spécifique, la créolité. Jusqu'à la publication de cet ouvrage, le dictionnaire français définit la créolité comme les blancs de pure race nés aux Antilles. Raphaël Confion, Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé redéfinissent ce concept. Aujourd'hui, créole désigne des personnes nées et élevées aux Antilles et c'est précisément ce que Raphaël Confion qui nous a reçus chez lui.
Ici, nous sommes chez moi, dans un quartier mi-populaire, mi-petit bourgeois de Fort-de-France, quartier mixte, je dirais, appelé Coridon, sous les hauteurs de Fort-de-France. De chez moi, je vois la rade, la belle rade très bien protégée de Fort-de-France. Et je suis dans une maison qui est celle de mes parents, qui a 2 étages, et en bas, c'est complètement ouvert. Et ça donne sur un petit jardin d'environ 200 mètres carrés, où j'ai plein d'arbres, où j'ai des fruits, où j'ai des cerises pays, des maracujas, des mangues, des tamarins des Indes. Enfin, j'ai pas du tout le sentiment d'être en pleine ville, en fait. J'entends le chant des oiseaux, et la nuit, j'entends cette symphonie des grenouilles. Et ça me fait énormément de bien, parce que ça me rappelle mon enfance, dans les années 50-60. J'ai vécu à la campagne de cette commune du Lorrain, dans une campagne, et il n'y avait pas d'électricité. Et la nuit me paraissait mais quelque chose d'effrayant parce que on voyait tout le ciel étoilé, des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui à cause de l'illumination. Et j'ai conservé le bruit extraordinaire de la nuit tropicale.
Et donc le Lorrain dont vous parlez, Raphaël Confion, c'est le village où vous avez grandi, c'est une petite ville du nord atlantique de la Martinique. Quels sont vos souvenirs d'enfance ?
Cette époque était celle de... où il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les petites distilleries mulâtres, c'est-à-dire les grandes distilleries appartenaient aux béquets, les grands blancs, et les métis, je dirais, possédaient des petites distilleries, mais ils ne possédaient pas de rhum à leur nom. Donc ils vendaient le rhum aux béquets du coin. Donc c'est ce que faisaient mon arrière-grand-père et mon grand-père. Et donc c'est dans ce lieu-là que j'ai baigné, que la plupart de mes livres se déroulent. Alors on peut penser que c'est un monde extrêmement fermé, mais comme je le dis souvent, c'est un monde très fermé géographiquement, mais universel. Pourquoi ? Par exemple, au plan linguistique, dans ma famille, on parlait créole et français, mais surtout français, parce que ma mère, elle était institutrice. Mais tous mes petits camarades ne parlaient que le créole, donc j'ai vécu dans un ben créole. Et j'assistais aux cérémonies hindoues où j'entendais les prières en tamoul. J'allais à la messe le dimanche où j'entendais le grec ancien Kyrie, l'eleison et le latin, etc. Il y avait des colporteurs syriens qui passaient et qui parlaient entre eux arabes en portant leur truc de colportage. Donc je suis au fin fond de la Martinique, dans les années 50-60, dans un minuscule bled, et j'entends le français, le créole, le grec ancien, le latin, le tamoul, l'arabe. Je vois des cérémonies hindoues, je vais à l'église catholique. Et je sais très bien que le type du coin là, c'est un quimboiseur, c'est-à-dire un sorcier pratiquant les restes de religion africaine. En fait, c'est du vaudou dégénéré, quoi. Donc j'ai vécu extraordinairement dans un monde multireligieux, multilingue, multiracial, puisque mon père est un métis noir chinois de Fort-de-France, de la ville. Alors ces Chinois, ce sont des travailleurs sous contrat que les planteurs blancs avaient fait venir après l'abolition de 1848 pour remplacer les Noirs dans les champs de canne à sucre. Et alors c'est 1853, hein, les premiers Chinois, donc c'est vieux. Et donc dans ma famille, il y a Noir, Blanc, Chinois. Bon, mais ça c'est banal. En Martinique, on peut avoir Indien, Noir, Blanc, on peut avoir n'importe quel. Et aucun de mes frères et sœurs n'a la même couleur de peau que moi, ni la même texture de cheveux, ni les mêmes traits. Si bien qu'une fois, ma mère nous avait emmenés à Paris, nous étions petits, et elle a piqué une colère, un phare terrible, parce que la concierge portugaise de l'immeuble, un jour, nous regarde et lui dit, « Vous les avez fait quatre papas différents, mais à toute sincérité, quoi. » Et ma mère, en bonne chrétienne, a pété un plomb. Bon, mais comment faire comprendre à cette dame qu'aux Antilles, le métissage est tellement profond que vous pouvez pas savoir de quelle couleur l'enfant va sortir, quelle sera la texture de ses cheveux, rien. Bon, et ça, c'est un monde assez particulier parce que quand je suis arrivé en France pour la première fois, je n'étais jamais sorti de la Martinique. Donc après mon bac, 1969-70, je m'en peux plus, je débarque en France. Et le choc que j'ai à l'aéroport, ils ont tous la même couleur. Ça m'avait sidéré. Je n'avais jamais vu un monde où les gens avaient la même couleur. Donc, ça donne déjà une idée de la créolisation, ce que je viens de vous dire là. On n'a pas conscience de cette multiculturalité, mais on la vit normalement. C'est ça qui est curieux.
Voisin, voisine, écoutez-moi, pas faire des autres.
Écoutez-moi, voisine, c'est si mot facile, quand ça vient changer les autres.
Moi, t'as trouvé un voisinage, ça n'a pas bien vos autres.
Écoutez-moi, voisine, c'est si mot facile, quand ça vient changer les autres.
Les autres papiers, j'ai mes autres mains dans la main, avec sincérité, bonne harmonie. Écoutez-moi, ma casotte, vous m'aimez.
Écoutez-moi, voisine, c'est si mot facile, qu'on s'en question des autres.
Camarades, chers voisins, pas attaquer des autres.
Écoutez-moi, voisine, c'est si mot facile, qu'on s'en question des autres.
Voisine. À l'heure de la mondialisation, les cultures se croisent et se frottent, à l'image des Antilles, mais à l'échelle planétaire. C'est en tout cas le constat d'Edouard Glissant, romancier, poète et philosophe martiniquais, qui a rendu célèbre le concept de créolisation. Il convient donc, aujourd'hui, de s'interroger autour de la question « Qui est vraiment créole dans le monde actuel ?» Et c'est Myriam Moïse qui nous répond, maître de conférence à l'Université des Antilles, en Martinique.
Alors, je sais pas si on pourrait dire on devrait tous et tous être créoles, parce que la créolisation, je pense, il faut vraiment la situer dans son contexte et vraiment en souligner les spécificités. Mais je crois que la Caraïbe, les Antilles, les espaces postcoloniaux peuvent représenter des lieux où finalement il y a cet exemple, parce qu'il n'y a ça nulle part ailleurs, finalement, que dans cet espace où il y a autant de cultures qui s'entremêlent. Maintenant, si on pense à la créolisation à l'extérieur, parfois la créolisation, elle est détournée au profit d'agendas politiques ou de discours politiques. Mais la créolisation, ce n'est pas simplement l'universalisme. C'est beaucoup plus complexe que ce qui est mis en avant. En tout cas, ce qui est important, et je pense que le Barbadien Camo Brathwaite l'explique vraiment bien dans sa description des identités limbo, c'est que finalement, la créolisation, c'est un processus, mais dès le départ, les identités, ce sont des identités chancelantes. Donc, le Barbadien Camo Brathwaite, il utilise vraiment cette image du limbo qui est la danse utilisée pendant les fêtes caribéennes, pendant le carnaval, où on passe sous un bâton, parfois enflammé, et souvent le corps est un peu chancelant, en fait, pour passer sous ce bâton. Et Edouard Camo Brathwaite, il utilise cela pour vraiment décrire ces identités qui sont nées depuis la cale du bateau négrier, puisque c'est pendant la traversée du milieu qu'il y a déjà ce chancellement du bateau et également cet espace, puisqu'on déporte donc les Africains d'un espace à un autre. Et donc, je pense que le chancellement des identités, cette instabilité-là, elle est propre vraiment à la créolité. Je préfère souvent utiliser le terme créolisation que créolité parce que créolité, c'est plus un résultat, alors que créolisation, c'est un processus. Et je crois que c'est dans ce sens que Glissant théorise vraiment son concept de créolisation et d'identité-relation, parce que finalement, dans la Caraïbe, aux Antilles, dans les sociétés post-coloniales, post-esclavagistes, eh bien, les identités ne sont jamais fixes. Elles ne sont jamais statiques. Il y a toujours un mouvement et un processus de transformation. Et donc, l'important aujourd'hui pour nous, Martiniquais, c'est véritablement de s'affirmer dans ce chancellement identitaire-là, de pouvoir se réaliser avec cette identité limbo, puisque aujourd'hui nous sommes, c'est la créolisation qui nous permet de nous affirmer dans cette identité qui est au croisement des continents. Donc je pense que c'est important effectivement de voir la créolisation comme un phénomène de transcendance vraiment, transcender les espaces, transcender les normes et les catégories.
Le concept s'exporte, voyage. Il devient symbole de revendication, de liberté et d'ouverture. Mais certains mettent en garde contre le risque de galvauder ce terme. C'est tout du moins le point de vue d'Isabelle Dubost, anthropologue, spécialiste des migrations et des mobilités dans la Caraïbe.
Mais bien sûr qu'il y a quelque chose de séduisant aussi dans cette idée de créolisation. Mais moi, ce dont j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que je peux encore l'utiliser comme un concept opératoire en anthropologie? Voilà. Et je suis plus certaine de ça. Aujourd'hui, on utilise le terme de créolisation, mais en même temps, de quoi est-ce qu'on parle? Voilà, c'est ça la grosse question que moi je me pose. C'est un terme qu'on voit partout dans les médias, voilà, tout le monde en use et en abuse. Mais en même temps, on y met quoi? Est-ce qu'on prend ça comme un concept opératoire pour expliquer une situation sociale? Et dans ces cas-là, quelle direction on lui donne? Soit on imagine que c'est un concept qu'on va utiliser uniquement pour les sociétés qui ont subi les mêmes processus historiques que le système de plantation, l'esclavage, la colonisation auparavant, bien évidemment, et ses rapports de domination. Et dans ces cas-là, c'est un concept qui ne peut être opératoire que pour ces sociétés qui ont vécu ces processus historiques. Et aujourd'hui, ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'on donne une sorte de valeur un peu universelle à ce concept de créolisation. Mais alors du coup, en quoi il est encore valide aujourd'hui pour parler à la fois des sociétés antillaises, guyanaises, etc.? Est-ce que tout le monde est créole aujourd'hui? Enfin voilà, moi ça m'interroge et c'est un peu le principe du concept qu'on utilise un peu beaucoup. Au bout d'un moment, il est un peu vidé de son sens. Moi j'ai du mal à l'utiliser aujourd'hui parce que je trouve qu'il a perdu du sens et il y a beaucoup de sens à l'intérieur. Donc du coup, mon interrogation c'est quel est le sens aujourd'hui de la créolisation? Voilà. Et en tant que concept, moi je suis anthropologue, donc c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que moi, en tant qu'anthropologue, je peux encore aujourd'hui parler de créolisation? Et comme on a des sens différents, je ne peux plus l'utiliser. Voilà. Ben, je trouve qu'il faudrait le redéfinir, tout simplement, et voir sa pertinence aujourd'hui. Parce qu'en anthropologie, on a plein de concepts pour parler des dynamiques culturelles, des changements engendrés par des échanges de populations, des échanges culturels. Donc en même temps, pourquoi est-ce que ce concept-là serait plus valide que le concept de métissage, d'échange, d'appartenance culturelle, etc.? Moi, je préfère parler de travail. J'aime bien ce terme-là. C'est-à-dire, une société, ça travaille de l'intérieur. Il y a des transformations qui s'opèrent parce qu'il y a des échanges, parce que des populations arrivent avec leur propre culture. Il se passe des choses. Donc, j'aime bien cette idée de travail. Mais en même temps, est-ce qu'on peut réduire ce travail-là? Moi, ce qui m'embête, c'est que si on utilise le même concept, ça voudrait dire que toutes les sociétés fonctionnent de la même manière. Voilà. Est-ce que la créolisation, c'est juste construire du vivre ensemble? Ça me paraît très réductionniste.
À tuer si tu veux, à cette à tuer si tu veux, ton blanc cité, gagne à tuer si tu veux, à cette à tuer si tu veux, ton franc cité.
n'a pas besoin de router, à moi faible mon qualité. Des bords du la terre semble tout mon batacité. À moi n'a pas besoin de router, à moi faible mon qualité. Des bords du la terre semble tout mon rayonnage.
Raphaël Confiant, écrivain martiniquais.
Les hybridations ont toujours existé, de toute façon, les mélanges ont toujours existé. Jules César, il envahit la Gaule, et puis les Gaulois deviennent des Gallo-Romains. Bon, ok, d'accord. Bon, les Arabes envahissent l'Afrique du Nord, et puis ils deviennent des Arabo-Berbères. En fait, je veux dire que, bon, les mélanges entre cultures ont toujours existé. Ça n'a rien de nouveau. Simplement, quelle est la caractéristique de ce mélange qui s'est produit dans tout l'archipel, et même en Amérique, quoi, disons. C'est le fait que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des cultures qui n'auraient jamais dû être en contact se sont retrouvées en contact. S'il n'y avait pas eu la colonisation européenne, où est-ce que le vaudou serait entré en contact avec l'hindouisme? Or, avec le processus actuel de globalisation, on assiste à quelque chose qui s'est produit il y a 3 siècles chez nous. Non pas que nous devions donner des leçons à qui que ce soit, hein, mais nous disons simplement, attention, vous nous parlez de globalisation, de mondialisation, que dans les banlieues françaises ou qu'aux États-Unis, on assiste à la naissance de nouvelles langues comme le Spanglish, etc. On leur dit, mais ce que nous on voit dans vos banlieues, nous ça fait 3 siècles qu'on connaît ce truc-là, quoi. Le fait que des populations différentes avec des religions, des concepts, des visions différentes sont obligées de cohabiter. Parce que c'est ça, c'est l'obligation de cohabiter, hein. Parce que si vous voulez pas cohabiter, vous faites l'apartheid. Pour revenir au fait que ça intéresse le monde entier, c'est que on constate aujourd'hui que quelles que soient les barrières et les murs que l'on peut construire, quelles que soient les discours xénophobes qui peuvent naître, il y a un processus irréversible qui est en train de se faire.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont inquiets de cela, ceux qui craignent que leur culture ne se retrouve diluée et disparaisse pour toujours?
Il n'y a pas d'ère civilisationnelle éternelle. Donc, moi je crois que toute personne qui pense que sa civilisation est éternelle et qu'elle ne changera jamais et qu'elle sera toujours là de toute éternité, c'est quelqu'un qui est mûr pour le fascisme, quoi. Non, il y a eu à partir de Colomb l'ascension de ce qu'on appelle le monde occidental, mais tous les signes montrent que c'est en train de s'achever. Alors nous sommes trop vieux pour le voir, évidemment, nous ne le verrons pas, ce sont nos petits-enfants, parce que ce sont des processus historiques très longs. Mais moi je crois que l'histoire c'est une succession d'ères civilisationnelles, et que c'est pas la peine de s'accrocher à sa civilisation en disant elle est éternelle, etc. Un grec d'aujourd'hui ne pourrait même pas discuter du beau temps avec un grec de l'Antiquité. D'ailleurs, un français d'aujourd'hui ne peut pas discuter du beau temps avec un français du Moyen-Âge non plus. Donc la pérennité de l'identité, moi je crois que c'est la chose la plus dangereuse. Croire en l'immuabilité des identités. Moi je crois que il n'y a pas de permanence identitaire, il n'y a pas de permanence culturelle, il n'y a pas de permanence linguistique, il n'y a pas de permanence raciale.
Dans le prochain épisode, créolisation, un mot clé pour parler au présent d'identité, de fluidité, nous continuons de tourner autour de ce concept avec des spécialistes du monde entier. À bientôt.
Sommes-nous tous devenus créoles est une série de France Télévisions Outre-mer La Première, produite par Wave Audio. Un épisode signé Alice Milo avec Jeanne Robet. Réalisation de François-Charles Domergue.
Direction éditoriale d'Outre-mer La Première, Fabrice Auchard et Jean-Marc Parti.
Et pour ne rien manquer des épisodes de la série, rendez-vous sur le portail des Outre-mer, lapremière.fr.
Mes amis, ça fait bien longtemps, moi quitté pays, moi. Moi, j'en bête l'eau, la natie changée, même pas billet langue, moi. Non danger, coup dans l'amour, c'est créole qui pointait. Mes amis, ça fait bien longtemps, moi quitté pays, moi. La nati changée, même pas oublier langue moins. C'est la vie, c'est qu'il t'y liait. ses racines la caille, pas gain tant coup créole. Créole, c'est long nous, pas quitter l'année. Et ça, même si bagaille ont changé, pas quitter l'année. Même les jambes de l'eau, quel que soit côté n'y est créole, c'est long nous, nous pas perdre parler. Mes amis, ça fait bien longtemps, moi qui t'ai payé moins. Moi jambes de l'eau, la nati changé, pas plier langue moins. C'est fierten, c'est long pays, racine la gaille. Baguette ton coup créole, non. Créole, c'est long, non. Pas quitter l'aller, pas quitter l'aller, pas quitter, non. Même si bagaille a changé, pas quitter l'aller, non, non, non. Ouragan passé, coudou, coudou crasé. Même les gens avec l'eau, quel que soit côté nié, créole, c'est long, nous. On pas fait parler, nous pas fait parler. N'a construit canal, non, pour l'on nous qu'a joué nos routes. Osez l'esprit timonio, pour des mecs à mio. Aïe, créole, c'est long, nous. Quitter l'allée, pas quitter l'allée, même si bagaille a changé. Pas quitter l'allée, pas quitter l'allée. Ouragan passé, coudou coudou crasé, même les gens bêblos, quel que soit côté nié, créole, c'est long, nous pas fait valer, nous pas fait valer.
Martinique, nous là.
S'il est Maurice, nous là.
La Réunion, les là.
Michel, c'est nous.
Nous parlons.
Guyane, les autres là.
Nous parlons.
Guadeloupe, les autres là.
Nous parlons.
C'est Lucy. Thomas.
La Grenade.
Nous parlons.
Trinidad. Cuba. La Louisiane.
La Dominique.
Haïti chérie.
Réa, c'est long nous. Long nous, long nous. Réa, c'est long nous. Réa, c'est long nous.
Vous êtes Zouk et uniquement Zouk. Écoutez Tropic Zouk, la web radio de Tropic FM. Tropic Zouk pour les zoukers nés.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque mercredi sur France Culture, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 14h30. Dany Journeau, Alexandre Dang et Catherine Madure nous accompagnent en régie. Vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Alors, dans le cadre des 24 heures d'antenne que France Culture consacre ce 20 mars à la langue française, le nom de notre opération est « Le français est une chance », Planète Terre évoque les langues et les airs créoles. Écoutons tout de suite l'extrait d'un entretien accordé par Édouard Glissant et archivé sur son site web.
Pour moi, la créolisation, c'est le métissage qui produit de l'imprévisible. Pour moi, le métissage... C'est une étape absolument décisive, mais qui n'est pas déterminante. Parce que on peut concevoir un métissage mécanique, c'est-à-dire qui fait des résultats prévisibles. Pour moi, la créolisation, c'est la créolisation des cultures du monde d'aujourd'hui, dans leurs particularités, leur diversité, leurs différences, qui se mettent en contact et qui produisent de l'imprévisible. Ce métissage des cultures produit de l'imprévisible.
Nèg Port-au-Prince, Jacmel, Jérémy, Rila, Flatbush. Mon Dieu, voyons un message pour Haïti, Miami, le monde entier, Canada. Put bad boy, yo. Tande. Souke zorey tande, souke bouche pale. Si e basa, peyi an li va koule. Kan kou yon bato ki ple refije. Sinon pa chanje, bon Dieu, encore.
Alors Cédric Audebert, pourquoi vous avez choisi cet extrait?
Alors cette chanson est intéressante, elle est un petit peu à l'image de son auteur, hein, Wyclef Jean, qui est un artiste haïtien, donc né en Haïti, hein, dans la région de Port-au-Prince, et qui a immigré à l'âge de 13 ans ou 14 ans aux États-Unis, à Brooklyn, hein, dans un quartier populaire de New York. Et si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette chanson, comme dans le personnage de Wyclef, c'est véritablement l'idée de, comment dirais-je, de diffuser sa culture et de vivre sa culture haïtienne, et tout en vivant sa culture états-unienne acquise, et en essayant de composer au mieux et de créer des ponts permanents entre cette culture haïtienne et cette culture états-unienne, notamment cette culture noire états-unienne.
Et en un mot, Cédric Audebert, de quoi parlent les paroles de cette chanson?
Et donc le deuxième point, c'est qu'effectivement cette chanson évoque le destin douloureux d'Haïti, la manière dont les Haïtiens vivent au quotidien en Haïti et les raisons pour lesquelles ils sont obligés de partir, de quitter leur pays dans des conditions parfois difficiles, souvent difficiles. Et elle parle notamment du destin des Boat People. Mmh. Elle appelle les gens qui ont réussi à faire le voyage jusqu'aux États-Unis à utiliser ce tremplin qu'est les États-Unis pour pouvoir parler au nom d'Haïti, en fait.
Alors André Thibault, c'est très singulier le cas d'Haïti, parce que vous le rappeliez tout à l'heure, 8 millions d'habitants qui sont tous créolophones, et je crois avoir lu que seuls 25% des Haïtiens aujourd'hui parlent français. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une disjonction du français et du créole à base lexicale française?
Je ne sais pas ce que vous entendez par disjonction, mais enfin le cas d'Haïti n'est pas si isolé que ça. Dans plusieurs pays, il y a coexistence de deux langues, de deux codes linguistiques.
Et ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, le nombre de locuteurs, de créolophones haïtiens qui parlent français est finalement assez réduit, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir en France quand on dit souvent le monde de la francophonie, c'est de très nombreux habitants. Est-ce que c'est si vrai que ça?
Cette idée provient du fait qu'en général, lorsque l'on rencontre des Haïtiens, ce sont des gens qui appartiennent aux élites, qui ont eu la chance, le privilège d'être scolarisés en français. Et c'est un cas de figure qui n'est pas propre à Haïti. Si vous voulez, toute l'Afrique subsaharienne francophone fonctionne un petit peu de la même façon, avec des pourcentages de francophones qui diffèrent énormément d'un pays à l'autre. Mais le schéma normal, c'est que les élites sont bilingues et qu'une partie de la population qui n'a pas eu le privilège d'être scolarisée en français n'a pas accès à ce bilinguisme. Donc, disjonction de enfin, c'est un, si vous voulez, mais ce n'est pas propre à Haïti. C'est quelque chose qui est assez répandu dans de nombreux pays où le français est langue officielle ou co-officielle et coexiste avec d'autres langues qui, alors, dans le cas d'Haïti, effectivement, depuis que le créole a accédé au statut de langue officielle, on essaie de doter cette langue des instruments propre à une langue officielle, c'est-à-dire une normativisation des dictionnaires, des grammaires, une graphie sur laquelle on doit s'entendre pour que cette langue puisse accéder à des fonctions de langue de prestige qui normalement sont toujours monopolisées par le français.
Et Cédric Audebert, que diriez-vous du lien ou des liens qui existent aujourd'hui entre la langue française et le créole dans les îles, dans les Antilles françaises, en particulier dans les départements d'outre-mer? Et en vous posant cette question, je pense bien sûr à la fois aux habitants de ces départements d'outre-mer, mais également à ceux d'entre eux qui sont venus s'installer en métropole.
Alors là, on a effectivement une problématique qui est tout à fait intéressante, hein, puisque je dirais qu'il y a autant de dynamiques linguistiques qu'il y a de contextes sociogéographiques. Hein. Et si on s'intéresse, par exemple, à la Martinique, bon, comme on pourrait s'intéresser à la Guadeloupe aussi, on a véritablement, enfin, on observe hein, en direct des transferts lexicaux d'un créole à l'autre. Alors, on a pas mal de d'exemples qu'on pourrait donner comme ça, mais il y a beaucoup de mots qui sont utilisés dans le créole martiniquais qui sont empruntés par exemple au créole guadeloupéen ou au haïtien. Par exemple, le terme pour dire non en créole martiniquais, on va dire awa. Awa, vient directement du créole guadeloupéen. Hein. Vous voyez, ça c'est un exemple parmi d'autres. On a pas mal de transferts également entre le créole, les créoles à base lexicale anglaise et les créoles à base lexicale française. Donc on a quand même beaucoup d'exemples que l'on peut prendre ici. Hein. Par exemple, lorsque vous avez un chagrin d'amour en créole, vous allez dire bon en Martinique. Par exemple, vous direz moni en limbé. Limbé, c'est-à-dire limbé, c'est le terme qui signifie le chagrin d'amour. Et ce terme, c'est un terme qui vient du créole guadeloupéen. Et vice versa, on a pas mal de termes en créole guadeloupéen qui sont empruntés aussi au créole martiniquais. Mais il faut pas oublier que à côté de la Guadeloupe et de la Martinique, on a un certain nombre d'îles qui sont où l'on parle anglais, comme Sainte-Lucie, la Dominique, etc. Mais ces îles-là, qui ont comme langue officielle l'anglais, parlent aussi un créole qui est le même que celui de la Martinique ou de la Guadeloupe. Par exemple, le créole saint-lucien est presque identique au créole martiniquais, et le créole dominicain est presque identique au créole guadeloupéen. Donc là aussi, il y a des correspondances. Il y a plus de correspondances, ça on oublie beaucoup, mais il y a beaucoup plus de correspondances entre le créole martiniquais et le créole saint-lucien qu'entre le créole martiniquais et le créole guadeloupéen.
André Thibault, excusez-moi Cédric Audebert, allez-y, finissez. Comme on ne se voit pas, je le rappelais, vous êtes en duplex, je pensais que vous aviez terminé votre phrase.
Non, il n'y a pas de souci. En gros, si vous voulez, c'est un petit peu ce que l'on peut dire. Alors, il y a un troisième aspect auquel je pense là, et qui est l'anglicisation de créole. Parce que les contextes, je disais que tout à l'heure, il y avait autant de créoles socio-culturels et socio-géographiques. Et si on prend, par exemple, le cas de certaines îles dont je parlais tout à l'heure, Sainte-Lucie, Dominique, effectivement, là, la problématique créole, tout en étant similaire à celle de la Martinique et de la Guadeloupe, est quand même différente, au sens où, là, on n'a pas un contact créole français, mais un contact créole anglais. Et donc, il y a des mots de l'anglais qui passent aussi dans le créole saint-lucien, hein, ou dominicain. Et donc là, on a une anglicisation de créole qui se fait par métamorphisme de contact, hein, je dirais.
Ça, c'est bien l'expression de géographe qui a apprécié la géomorphologie dans ses études.
Oui, effectivement. Et cette anglicisation de créole se décline de cette manière, mais elle peut aussi se décliner d'une autre manière, comme c'est le cas en Haïti, parce que aujourd'hui, en Haïti, on a, enfin d'ailleurs tout au long du XXe siècle, hein, c'est pas propre au début du XXIe siècle, on a observé des contacts croissants entre l'anglais américain, avec la présence américaine notamment entre 1915 et 1934 en Haïti, où vous aviez une présence militaire états-unienne importante, une occupation des Marines à cette époque, et dans ce contexte-là, dans ce contexte historique, à partir de 1915, il y a tout un vocabulaire technique, notamment, hein, technique, mécanique, qui a été injecté dans le créole haïtien. Et aujourd'hui, tout le vocabulaire haïtien lié à la mécanique, à l'automobile, est emprunté, je dirais, à plus de 95%, hein, est emprunté à l'anglo-américain.
Par exemple ?
Alors bon, il y a pas mal d'exemples qu'on peut donner. Hein, par exemple, quand on vous dit, vous êtes dans une voiture, on vous dit de faire une marche arrière, on va vous dire « fais un petit bac ». Fais un petit back, ce qui veut dire fais une marche arrière. Donc back, ça vient de l'anglais to back up, quoi.
Bien sûr.
Et donc il y a pas mal d'exemples comme ça qu'on peut donner.
Ouais. André Thibault, je repensais à aux propos que nous avons, aux propos d'archives qui ont été diffusées en tout début d'émission d'Edouard Glissant, qui parle de créolisation et de métissage. Alors lui, évidemment, il en parle. D'un point de vue à la fois de poète et de philosophe. Pour le linguiste que vous êtes, est-ce que ça a une correspondance avec la réalité linguistique ?
Oui, alors je voudrais juste rapidement revenir, enfin je peux pas m'empêcher, après avoir entendu mon collègue, de citer l'existence d'un ouvrage très intéressant qui s'appelle l'Atlas linguistique des petites Antilles, de mes collègues Jean Ledu et Guylaine Brun-Trigo, où justement on a non seulement la Guadeloupe et la Martinique, mais aussi Sainte-Lucie, la Dominique, et voilà, tout ce que mon collègue vient de dire est absolument vrai sur cet atlas, sur ces cartes d'atlas linguistique, on peut le constater. Alors pour revenir à votre question maintenant, effectivement, quand nous on parle de langue créole, c'est un terme beaucoup plus technique et beaucoup plus restreint que ce que les chantres de la créolité entendent par créolité, créolisation, etc., où effectivement eux, ils incluent là-dedans énormément de choses culturelles, alors que du point de vue du linguiste, une langue créole, c'est quelque chose de beaucoup plus précis que tout simplement le résultat de métissage. Il y a des tas de métissages sur la planète qui n'ont pas nécessairement donné lieu à ce qu'on appelle techniquement une langue créole. Toutes les langues naturelles ont emprunté au cours des siècles énormément de choses à d'autres langues en contact. Donc s'il fallait retenir ça comme critère, il faudrait dire que toutes les langues sont des créoles.
Cédric Audebert, en un mot, votre réponse à cette question, cette évocation de la créolisation par Édouard Glissant. En un mot, sachant que j'en profite, nous allons passer maintenant le deuxième extrait musical que vous avez bien voulu conseiller à Dany Journeau, une chanson donc d'Eugène Mona qui s'appelle Face à Face, mais qui va passer sous votre réponse.
Oui, alors par rapport à ce que l'on entend par créole, moi je crois simplement que le créole, il n'est pas seulement celui auquel on fait référence aux Antilles, au Cap-Vert, à La Réunion ou dans certaines îles du Pacifique. Je crois que d'une certaine manière, dans un contexte de mondialisation aujourd'hui, nous sommes tous un peu créoles. Et les villes comme New York, comme Miami ou comme Toronto, qui sont des villes où on a entre 25 et 40, voire 50% de la population qui est à l'étranger pour certaines villes, bien ce sont des villes créoles, de fait, véritablement. Des villes en tout cas animées, agitées, traversées, dynamisées par le processus de créolisation.
Bon, on va en rester là, l'émission touchant à son terme. Cédric Audebert, André Thibault, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. C'était donc « Le créole est-il l'avenir du français sur planète Terre ?» L'opération Le Français est une chance se poursuit toute la journée sur l'antenne de France Culture. Retrouvez toutes les émissions sur le site web et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. À mercredi prochain. Nobody see the code, don't you see the nobody see the code.